Bien. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir M. Mathieu Rey, que je vois depuis quelques années gravir les marches du cursus honorum, avec en particulier une très belle thèse sur ce qui pourrait être considéré comme une histoire politique comparée de la Syrie et de l'Irak après l'indépendance, donc qui resterait à la fois la vision d'un certain libéralisme arabe qui avait été condamné aux poubelles de l'histoire par les générations précédentes d'historiens comme moi, et qui en même temps était très intéressant parce que c'était un des rares réussites d'une histoire comparée de deux régimes politiques arabes dans la même période, avec évidemment un grand lot d'interactions. Et puis, donc, il a été mon maître de conférence au collège, et ensuite, il a continué à gravir la voie royale, puisqu'il est actuellement chargé de recherche au CNRS, alors tout en bougeant un peu partout dans le monde. Alors évidemment, il a passé de nombreuses années au Proche-Orient, en particulier en Syrie. Il a été aussi à Singapour, actuellement il est à Johannesburg. Donc ça lui donne une vaste expérience, au moins à titre comparatif. Et puis, c'est aussi un vaste entrepreneur d'activités scientifiques diverses, lançant projet sur projet, ouvrage sur ouvrage. De temps à autre, j'apprends que j'ai participé à tel ouvrage qu'il a dirigé ou co-dirigé ou en tout cas organisé. Alors là, il sort une histoire de la Syrie tout à fait prochainement, au printemps, si j'ai bien compris. Mathieu, je te laisse la parole.
Merci d'abord pour cette invitation, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver au Collège de France autour d'un des rares endroits où nous disposerons du temps pour revenir sur une histoire parfois méconnue et parfois oubliée des siècles obscurs comme le 19e siècle, qui constituera aujourd'hui l'enjeu de cette présentation, ainsi que d'une actualité plus récente. Il n'est quasiment pas un mois, voire un jour, sans que le nom de la Syrie ne revienne à nos oreilles sous une forme ou une autre à travers la presse ou à travers les médias, que ce soit des désastres, que ce soit des sommets diplomatiques. C'est un mot récurrent qui vient et qui hante les esprits au moins depuis 2011. Avec l'affaire syrienne, partisans ou opposants du régime ou de l'opposition en ont fait une question particulièrement sensible, au point que des clivages se sont formés, même dans l'académie. Le problème de ce discours et de cette récurrence de la Syrie tient au fait largement qu'on finit par oublier une population, oublier des processus historiques anciens, sur lesquels je vais tenter de revenir. Je voudrais vous proposer aujourd'hui un double pari, celui de l'histoire et du passé, pour tenter de voir comment ce passé éclaire les dernières actualités, et d'autre part, de voir comment, à travers une approche originale, on peut comprendre l'histoire d'un peuple et d'un pays, alors même que ni le peuple ni le pays n'existent encore. Je vais tenter de voir des dynamiques de peuplement, des organisations sociales, des entreprises économiques, culturelles, et enfin, des formations politiques tardives au XXe siècle qui vont donner naissance à la Syrie en tant qu'État indépendant. Et pour cela, entreprendre un voyage historique avec ce que Pierre Tsangaravelu et Werner proposent dans la contemporanéité du monde, c'est-à-dire ce moment à partir du XIXe siècle où tout devient commun à tous, où un monde se forme, principalement autour des figures de l'État. Je m'excuse d'emblée pour les deux erreurs sur cette couverture. Donc, il faudrait bien sûr mettre les siècles au pluriel. Et nous irons même jusqu'au XXIe siècle, parce que, vous le comprendrez au terme de ce parcours, l'ensemble des grands groupes humains qui se mettent en place des pavages ruraux et des mondes urbains qui vont se dessiner progressivement en 2 siècles d'existence, vont être déstructurés violemment, rapidement et brusquement, je dirais, en une année, 2012, donc à l'orée de 2 siècles, c'est rapide. Pour démarrer, revenons dans le passé et tentons de comprendre ce qu'est la Syrie du XIXe siècle. Cette carte de 1826 relate une certaine vision proposée par les Européens de l'époque de ce que peut être le Moyen-Orient, c'est-à-dire finalement, ou plutôt le Proche-Orient, c'est-à-dire une fine bande côtière avec en son arrière-plan des villes mythiques et historiques qui forment une sorte de chapelet partant de Jérusalem jusqu'à l'Anatolie, autour de, finalement, de zones de peuplement relativement restreintes. Au-delà de cela, un monde relativement inconnu, formé de tribus, dont on connaît vaguement l'existence, où l'on voit des phénomènes se dérouler, mais qui est alors encore un monde à explorer. Les terres syriennes de 1780, si je reprends les termes de Volney, sont largement constituées de 3 grands ensembles disposés autour de ces mondes et ces reliefs. Alors si le relief syrien ne bouge pas, au contraire, nous verrons que ces 3 grands ensembles humains, à savoir les tribus, les villes et l'intermédiaire entre les deux, les campagnes, interagissent très largement avec une écologie changeante liée largement aux derniers effets du petit âge glaciaire. Le premier monde, c'est le monde des tribus. Il domine par son étendue massive, reprenant à peu près l'intégralité des terres présentes ici, allant jusqu'à les quelques kilomètres autour des villes. Tout simplement, la perte d'une capacité à créer une activité agricole durable explique la possibilité pour les tribus de se développer. En outre, on voit apparaître très rapidement au XVIIIe, XIXe siècle une sorte de concurrence entre d'une part les tribus et d'autre part l'État. Alors naturellement, cette concurrence n'est pas pensée, mais sur le terrain, c'est ce qui se déroule. L'État ottoman s'exerce dans des villes, il n'a pas la capacité de contrôler de vastes déserts ni des routes de caravanes, au contraire des tribus qui sont à même d'assurer une certaine sécurité et une certaine fluidité des marchandises. Une tribu peut être enfin comparée à l'État dans la mesure où elle prélève des ressources, c'est la rouroi, cet impôt de fraternité imposé aux différents paysans, et d'autre part, elle assure une sécurité ou impose sa violence au gré à un ensemble de personnes. À l'encontre de ce monde-là, qui est, donc, comme je le dis, dominant par son étendue géographique, un monde de villes. Les villes connaissent des concentrations démographiques plus importantes que celles en Europe, mais relativement faibles si l'on considère l'ensemble de la population syrienne. Quelques centaines, on atteint quelques dizaines de milliers d'habitants à Damas ou à Alep, et on tombe immédiatement à quelques milliers pour les autres ensembles, que ce soit Deraa au sud, un peu plus au nord, Homs, Hama, et Latakia sur le bord. Ce monde de villes est cependant très important pour l'avenir de la Syrie. C'est en effet dans ce lieu que se forme le pouvoir et que s'exerce l'autorité souveraine de l'Empire ottoman. Pour cela, l'Empire délègue auprès de personnes, de grands notables, de grands dignitaires, pardon, un ensemble de pouvoirs, que ce soit le pouvoir de justice pour le cadi, ou que ce soit le pouvoir de contrôle pour le wali, qui sont en charge pendant un temps donné de régler les affaires politiques. Mais ce temps donné ne leur est pas suffisamment long pour constituer les richesses nécessaires de telle manière à s'assurer durablement d'un contrôle des villes. Aussi doivent-ils s'entendre avec des groupes sociaux déjà existants, eux-mêmes formés par un ensemble de facteurs qu'il faut croiser pour les comprendre. Vous avez un facteur économique, par exemple les grands marchands, ou certaines productions qui assurent à un ensemble de familles, qui arrivent au XVIIIe siècle principalement dans les villes, une fortune. On a ainsi la famille des Kouatli, qui s'installe entre 1800 et 1850 à Damas, qui s'enrichit dans le commerce du grain, et ainsi s'assure d'une position sociale commune finalement à ce que la richesse peut octroyer dans n'importe quel monde. Mais à côté de l'économique, vous avez d'autres facteurs qui peuvent fournir du pouvoir ou fournir du prestige. Ce sont les activités, par exemple, cultuelles, les activités religieuses, qui font que celui qui peut se prétendre descendant du prophète, un ashraf, va disposer d'un ensemble de prérogatives et disposer d'un ensemble de droits qui, par exemple, déchargeront de certains impôts. Si vous êtes ulema, le savoir que vous disposez en matière législative vous assurera aussi une nouvelle position qui n'est pas forcément corrélée avec la richesse. Aussi, nous avons un ensemble de groupes qui se forment, qui vont très rapidement constituer le soubassement de factions dans les villes. Et pour résumer ou synthétiser cette formation, il faudrait voir des facteurs économiques, des facteurs culturels et des facteurs politiques, c'est-à-dire comment ces populations utilisent leurs prérogatives et leurs droits pour jouer un rôle dans la ville. Il faut bien imaginer la ville, non pas comme un monde uni tel qu'elle pourrait apparaître, je dirais, après l'âge d'Haussmann, mais comme un monde largement divisé, fractionné, par une architecture qui fait que vous pouvez enfermer des quartiers par des portes, que les murailles protègent la ville des faubourgs qui apparaissent à cette époque, et ainsi vous avez tout à la fois une unité urbaine et en son sein autant de scènes qui peuvent accueillir des familles ou bien des élites qui vont mobiliser dans le cadre du quartier pour construire leurs troupes. Parce que toute la dynamique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, c'est bien la mise en branle d'une géographie politique micro-locale qui fait que des factions vont s'affronter pour dominer la ville, parce qu'en dominant la ville, elles vont pouvoir dominer le monde autour de la ville, celui des campagnes en reconstitution, et par là même s'assurer d'un pouvoir plus grand. Les campagnes, un bref mot dessus, sont caractérisées à l'époque par deux mondes largement antagonistes. Le monde à l'ouest du chapelet de ville de Deraa jusqu'à Alep, où on voit des activités plus pérennes, avec des systèmes de jardins notamment autour de l'Oronte, qui font que vous avez des activités de production intensive qui sont relativement fortement taxées, mais qui assurent à leurs propriétaires et aux producteurs une certaine prospérité. Au contraire, pour toute la zone qui s'étend à l'est de la ville, et on le voit très rapidement dans cette représentation d'Alep, les pourtours de la ville sont finalement directement des mondes ruraux, des mondes plutôt délaissés ou à quelques kilomètres de la ville. Le pouvoir politique ne peut pas assurer la sécurité. Ne pouvant assurer la sécurité, il met en danger la sédentarité des populations. Et bien généralement, en plus, comme il les oppresse d'impôts, on voit des migrations rurales permanentes, empêchant la formation d'un pavage rural durable. Cependant, toute la question pour l'Empire ottoman du XVIIIe siècle, c'est de s'assurer de ressources durables et ainsi de s'assurer d'impôts qu'il puisse prélever. Jusque-là, il octroyait des fermes fiscales sur une base annuelle, ce qui conduisait ceux détenteurs de ces fermes à oppresser largement une partie des paysans pour avoir le plus fort rendement. Une première réponse apparaît au cours du XVIIIe siècle, à peu près au milieu du siècle, à travers l'invention du malikané, qui constitue une ferme fiscale donnée à vie à une certaine personne. Ainsi, on achète son malikané et il est possible d'exploiter telle ou telle propriété et d'en prélever l'impôt foncier pour le redistribuer en partie tout du moins aux autorités impériales. Cette nouvelle dynamique va créer une compétition aussi dans l'ensemble des factions de la ville parce que maîtriser le malikané permet de disposer de ressources. Si vous disposez de ressources, vous pouvez investir soit dans des biens de prestige comme dans des wakf qui vous permettent de doter par exemple de bains ou de mosquées votre quartier, ou bien investir plus concrètement dans des hommes de main et vous assurer d'un certain contrôle sur le quartier. Une situation relativement exceptionnelle se forme à partir de 1780 et jusqu'en 1830, dans lesquelles, tout d'un coup, le monde des villes se met en branle de façon violente. trois grands mondes ou trois grands types de personnes dominaient alors. Les gendarmes, c'est-à-dire principalement les janissaires, les gens disposant d'un prestige, comme les Ashraf, là je parle surtout d'Alep et quelque peu de Damas, et enfin les gens de commerce qui disposaient des ressources, pouvant au gré s'allier par mariage au premier groupe ou au second groupe. En 1780, le besoin en armement de l'Empire ottoman, principalement lié à ces guerres très lointaines avec la Russie, font qu'une partie des janissaires partent, donc un groupe est moindre, ce qui octroie la possibilité à d'autres de disposer de plus de force. En 1784, pour ne prendre que le cas d'Alep, pour vous montrer cette dynamique, lorsque le wali est nommé par la porte, il rentre très rapidement en désaccord avec les Ashraf et les factions janissaires maintenues sur place, qui organisent une révolte. Dans un premier temps, les janissaires l'emportent et parviennent à contrôler la ville parce qu'ils disposent de la citadelle que l'on voit apparaître sur cette carte, qui est en hauteur, et donc par la même, maîtrisent par leur force l'ensemble de la ville. Ils imposent l'impôt qu'ils prélèvent pour eux-mêmes et se renforcent. Ceci suscite rancœur. 1798, ils sont obligés de partir parce qu'un certain Napoléon Bonaparte vient de débarquer en Égypte et que l'on mobilise pour repousser l'ennemi qui ne cesse d'avancer en Palestine. Cette faction diminuant, une autre apparaît à travers les Ashraf, et le Naqib el-Ashraf, c'est-à-dire le représentant des Ashraf, prend la direction de la ville et obtient de la part du sultan la reconnaissance de son pouvoir local par un titre de wali. Bien vite, il est d'ailleurs nommé à Damas, juste après la mort de Djazar Pacha en 1804, et part vers Damas, sans oublier de laisser à son fils le titre de représentant du wali, c'est-à-dire Mutasalim. Et ainsi, on voit progressivement comment vous passez d'un groupe social à un groupe politique, c'est-à-dire comment des acteurs qui jusque-là avaient des identités sociales, vous pouviez être de confessions différentes ou bien de fonctions différentes, utilisaient cet élément de distinction pour mobiliser des troupes derrière eux et ainsi conquérir la ville. La conquête de la ville, dans le cas de Damas à la fin de ce siècle, permet entre autres de disposer du commerce du grain, et Ahmad Djazar Pacha, qui devient la figure émergente au tournant de ce siècle, est celui qui est capable de prélever sur le commerce du grain les ressources nécessaires pour lui assurer une troupe permanente. Cette troupe permanente lui permet de dominer une vaste région qui va d'Acre jusqu'à Damas et qui remonterait vers Homs et Hama, mais il ne peut dominer que par l'accord et le lien à d'autres familles, et ainsi une de ses luttes historiques est contre une autre des familles locales, parce que ces familles disposent de Malikanés au nord de Damas, et donc lorsque vous êtes en concurrence, il faut aussi disposer des fermes fiscales. Mais vous le voyez, à un moment donné, vous avez une première distinction, une première formation d'une dynamique qui connaît et qui épuise largement le monde des villes jusqu'en 1830, dernier moment de révolte, avec révolte à Alep en 1821 suivie d'un tremblement de terre, puis révolte à Damas en 1830, qui à chaque fois est réprimée et qui épuise davantage encore les ressources. C'est dans ce contexte que la Syrie va se retrouver dans une dynamique largement exogène pour près de 30 ans, parce que deux centres majeurs vont tenter d'imposer un pouvoir extérieur sur ces provinces. Le premier centre, c'est le Caire, à travers l'expérience de Mohamed Ali, et le deuxième centre, c'est Constantinople, à travers l'expérience de Mahmoud II. Dans les deux cas, un processus de réforme, sur lequel je ne vais pas revenir, parce que vous avez tous pris connaissance des crises d'Orient, donc vous connaissez tout cela par cœur grâce au professeur Laurence. Très rapidement, on voit qu'une réforme militaire permet à ces deux pouvoirs de disposer de troupes régulières, de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, ce qui est tout à fait unique dans l'histoire ottomane, et donc d'infliger ou de corriger la moindre insurrection et la moindre dissidence interne. Le Caire donne le modèle, Mohamed Ali écrase les Mamelouks, met au servage une partie de la population paysanne pour prélever à travers ce travail forcé les ressources nécessaires pour entretenir son armée, qui corrige successivement tout d'abord une partie des confins du sud de l'Égypte actuelle, et puis très rapidement surtout permet de récupérer le Hedjaz, où Ibn Saoud a osé défier le monde ottoman et surtout a osé défier la prétention califale des Ottomans en affirmant qu'ils ne suivaient pas le bon islam. Et donc, en mode ottoman, lorsqu'il y a un problème, on envoie un gouverneur corriger une potentielle sédition par son utilisation de troupes. Le paradoxe des années 1830 et qui vont nous occuper jusqu'en 1860 tient au fait que ce même Mohamed Ali, qui demande rétribution après avoir corrigé cette fois-ci la révolte grecque, mais échoué devant les puissances européennes, souhaite avoir des gages ou souhaite avoir de nouvelles provinces qui lui permettraient d'assurer plus de pouvoir. Et c'est la fameuse expédition qui part vers l'Égypte, conduite par son fils Ibrahim Pacha, qui part d'Égypte vers la Syrie, et qui, en un an, écrase l'ensemble des forces locales. Encore une fois, rien de bien nouveau. C'est un gouverneur, on aurait très bien pu avoir le gouverneur de Damas écrasant Homs ou écrasant Hama. Au début, pour les populations syriennes, il s'agit juste d'une correction ottomane qui finalement retrouvera son ordre à terme. Mais dès 1832, lorsque une première stabilisation permet à Ibrahim Pacha de former la première province de Syrie, les habitants des différentes villes réalisent qu'un ordre nouveau est en train de s'établir. Cet ordre, c'est un ordre de type étatique, c'est-à-dire celui qui souhaite uniformiser les conditions, concentrer l'outil fiscal dans les mains du détenteur de l'autorité publique, de telle manière à lui assurer de la force nécessaire pour tenir et éradiquer les autres formes de violence. Parce que, en 1832, Ibrahim Pacha remporte la victoire contre les Ottomans, mais il lui reste encore les Bédouins à repousser de façon permanente, et plus encore, il reste ces montagnards qui deviennent de plus en plus présents, que ce soit les Alaouites de la montagne, ou plutôt les Insoumis de la montagne Alaouite, parce qu'il y a aussi des Ismaéliens, et plus au sud, un nouveau groupe qui fait son apparition par une longue migration humaine, les Druzes, qui commencent à occuper le sud de la Syrie. Donc il a besoin de troupes en permanence, pour cela il a besoin d'impôts, et pour cela, il souhaite disposer du relais des notabilités urbaines à qui il va octroyer de nouveaux pouvoirs à travers des organismes de représentation. Ce sont les conseils de ville. Ces organismes de représentation ne sont pas, et loin de là, une quelconque base démocratique ou la première démocratie du Moyen-Orient. Non, nous avons de la cooptation d'élites au sein des différents groupes. En revanche, c'est la première expérience représentative dans le sens où les différentes composantes de la population se retrouvent présentes dans les institutions du régime. Pourquoi Ibrahim Pacha recourt à ce modèle ? En s'assurant du soutien de ceux qui vont être appelés quelques décennies plus tard les notables, il peut disposer de personnes qui vont savoir gérer le local, savoir prélever l'impôt au bon endroit, mais aussi se souder à l'entreprise égyptienne dans une sorte d'assentiment avec la volonté de construire ce nouvel ordre. Le paradoxe, c'est que jusque-là, vous aviez des factions qui existaient, comme je vous ai dit, Ashraf, Janissaire et autres, et soudainement, leurs représentants, intégrant l'Assemblée, vont se voir parés de pouvoir, non plus parce qu'ils ont un trait d'identité, mais bien parce qu'ils font partie de l'institution. Et ceci leur octroie davantage de prérogatives. Lorsque vous discutez, par exemple, de l'assiette de l'impôt, mais aussi de prérogatives d'urbanisme, vous pouvez d'un côté jouer de ressources, donc appauvrir ce qui vous dérange, et au contraire, faire bénéficier de largesse les quartiers qui vous sont favorables. Et par là même, on voit que ces factions qui étaient jusque-là, en prenant appui sur un appui extérieur, peuvent se renforcer au point de vue intérieur. C'est toute la dynamique des crises d'Orient au niveau micro-local qui se met en place, à savoir intervention-ingérence, mais je ne reviendrai pas sur ce point de vue-là, tellement vous avez dû en entendre parler l'an passé. L'impact durable de l'entreprise égyptienne, qui va se prolonger même une fois que Ibrahim Pacha est défait, est bien de remettre en cause durablement une certaine vacuité du peuplement et une certaine vacuité de l'ordre politique. Si l'on regarde juste les dynamiques de peuplement, jusque-là, vous aviez un certain nombre d'ensembles. principalement autour de Damas ou d'ici, des villes qui étaient de façon permanente, peuplées de façon permanente. Là, vous allez avoir un chapelet de villages qui va s'établir. Ensuite, la dernière entreprise d'Ibrahim Pacha, qui est immédiatement suivie par ses successeurs, est de conduire des expéditions vers ce fleuve lointain, l'Euphrate, de telle manière à pouvoir le reconquérir dans un espace rural de nouveau dynamique. Un espace rural dynamique pour un pouvoir, c'est s'assurer de ressources fiscales, et donc c'est s'assurer d'une pérennité. Les successeurs d'Ibrahim Pacha prolongent l'entreprise et établissent deux fortins promis à un certain avenir, l'un à Raqqa, l'autre à Deir ez-Zor. Ainsi, vous avez une frontière qui se déplace, à l'image d'autres phénomènes à l'époque, sur laquelle je reviendrai rapidement. L'autre entreprise durable que l'on voit apparaître, c'est que dans l'entreprise de construction de pouvoirs locaux autour des assemblées, il y a aussi la reconnaissance d'une place pour les puissances étrangères. Et Ibrahim Pacha et ses successeurs autorisent la présence permanente de consuls dans les grandes villes syriennes. Pour une partie des populations non musulmanes, que l'on qualifiera après 1919 de minoritaires, pour les chrétiens ou pour les juifs, la présence de consuls va jouer sous une certaine forme, si je suis la thèse de Sauvaget, le rôle qu'a pu jouer le pouvoir extérieur, le wali, le cadi ou bien Ibrahim Pacha, pour les autres factions musulmanes, celui d'une aide extérieure à la ville qui va renforcer leur pouvoir. Effectivement, les consuls donnent la nationalité, permettent d'acquérir des droits en matière de justice sur les populations locales. En parallèle, et c'est le dernier leg durable important de l'expérience égyptienne, dans une entreprise de se porter comme l'ardent défenseur de la civilisation, c'est tout le discours que vous avez entre Mohamed Ali à l'époque et les puissances européennes, c'est-à-dire celui qui est à même de corriger les barbaries contre les différents lieux, que ce soit au Soudan ou que ce soit en Arabie, et d'autre part celui qui octroie aux minorités un certain nombre de droits, on voit apparaître une des contradictions fortes qui va animer l'Orient arabe jusque dans les années 1870. D'un côté, on éradique les différences sociales, politiques, économiques que connaissaient les minorités. De l'autre, par la présence de consuls, ils bénéficient de nouveaux droits. Et par là même, la gestion locale s'en trouve transformée parce que soudainement, des minorités qui étaient jusque-là intégrées dans un dispositif ottoman, c'est-à-dire celui de disposer d'un certain nombre de droits et de prérogatives, mais pas d'une certaine égalité avec d'autres, se voient symboliquement présents dans l'espace public. Première trace, on sonne les cloches. Ceci déclenche une émeute immédiatement en Jordanie actuelle, en 1856. Plus encore, on va voir l'abandon du port de Labi, qui traditionnellement marquait ces populations, et donc par là même, pour les notabilités autres, ce sont des nouveaux concurrents qui apparaissent sur l'espace public. C'est dans ce contexte et avec la multiplication de l'amélioration économique liée aux campagnes que je vous ai présentées préalablement que l'on retrouve les ferments de la crise de 1860. Toute l'entreprise de la réforme des villes et des provinces ottomanes visait largement à les pacifier et à en construire dedans un outil économique et militaire qui permettait à ce que ces provinces intègrent l'Empire et soient pacifiées. Mais à l'intérieur, dans les villes, l'entrée de ces factions dans le monde politique et surtout dans le monde institutionnel a créé de nouvelles compétitions, faisant qu'il n'y avait plus de lieu de discussion, plus de lieu d'entente, mais au contraire, une lutte, je dirais quasiment à mort, parce que si une famille monte, cela signifie la perte de droits de privilèges politiques et d'avantages économiques. En 1860, sur une affaire anodine, des enfants charrient un certain nombre de populations chrétiennes à Damas. Ils sont convoqués chez le gouverneur. Le gouverneur n'est pas en accord avec ce qu'ils ont fait. Ils repartent pour présenter leurs excuses. Sur le chemin, dans le souk du centre-ville de Damas, à côté de la citadelle, ils croisent des proches, peut-être des cousins ou des oncles, qui se joignent à eux en dénonçant cette oppression anti-musulmane du gouverneur, parce qu'il a pris la position des chrétiens, et soudainement, une foule se forme, et dans un moment paroxystique, c'est le début des massacres de Damas, qui font écho directement à d'autres dynamiques de la montagne. En 8 jours, On dénombre, selon les chiffres évoqués par les historiens, entre 5 000 et 10 000 morts sur une population globale, peut-être de 12 000. À chaque fois, c'est la même chose. L'intrusion d'hommes en armes, avec un bâton ou des épées, le massacre des hommes susceptibles de résister, parfois les femmes sont touchées aussi, puis l'incendie s'est généralisé. C'est un traumatisme dans l'Empire. Soudainement, ces provinces syriennes qui venaient d'être réintégrées à la fin de l'expérience égyptienne se montrent encore le ferment de ce qui devient le fanatisme dans les dépêches diplomatiques, à savoir cet islam qu'on ne saurait maîtriser devant ceux qui tentent de survivre, alors même qu'au niveau local, c'est bien la mobilisation par des acteurs de second rang pour dominer la ville qui ont abouti à ce massacre. Il faut réorganiser l'ensemble et l'Empire ottoman délègue Fouad Pacha qui va reprendre le contrôle. Parallèlement à cela, l'expérience hamidienne hamidienne que je fais partir dès les années 1760 alors que Hamid, Abdulhamid II parvient au pouvoir en 1876, sont caractérisés, parce que le temps commence à courir, par quelques grandes caractéristiques. Entre 1870 et 1908, l'Empire ottoman connaît un bouleversement technique. Le développement du télégraphe, par exemple, permet à ce que plus de 5000 télégraphes partent quotidiennement des grandes villes. Or, comme l'historien Eugene Rogan l'a très bien montré, le télégraphe permet une double communication. Certes, cela permet l'échange d'informations entre un centre lointain et une localité, mais surtout, il permet une communication à l'interne. Une pétition part d'un groupe de notabilités contre le gouverneur qui a mal agi. Le premier au courant ne sera pas le destinataire, à savoir le bureau central de Constantinople, mais bien le gouverneur, qui, en bon gouverneur qu'il se respecte, exerce une certaine censure sur les envois des communications locales. Et donc, à travers un pouvoir technique, vous allez reformer un nouveau dialogue, que ce soit au niveau local, mais aussi entre le centre et la périphérie. L'autre mobilité qui se recrée, c'est le chemin de fer, qui permet à ce que des communautés humaines jusque-là isolées ou faiblement mises en relation, soudainement se retrouvent en échange permanent. Vous pouvez aller à Beyrouth parce que vous avez un chemin qui est dégagé à travers la montagne. Bientôt, c'est un chemin de fer qui descend d'Alep jusqu'à Homs et plus tardivement, au début du siècle, jusqu'à Damas. Et enfin, des entreprises ou des utopies à l'époque parlent d'étendre le contrôle ottoman vers l'Irak et pour cela de redessiner une zone de peuplement et une zone d'occupation par le chemin de fer, sur cette bordure que vous voyez apparaître sur cette carte, entre la Syrie et l'Irak. En plus de cela, vous accompagnez le processus de colonisation technique par une colonisation humaine, et dès 1878, des groupes tcherkesses sont positionnés sur cette zone qui va être promise au développement du chemin de fer. Donc, soudainement, vous avez un ensemble uni qui émerge et qui se sédimente parce que vous avez les moyens techniques pour un pouvoir politique extérieur comme Constantinople de le contrôler et de le dominer. À l'intérieur des villes et au sein des campagnes, c'est toute une mutation autour de nouvelles entreprises liées à des familles de notables. Lorsque, finalement, le pouvoir local est principalement assuré par le conseil de la ville, il devient nécessaire pour chaque famille de disposer d'un représentant. Vous n'allez pas forcément envoyer le meilleur de la famille, mais il faut qu'au sein de la famille, il y ait un membre qui puisse avoir un droit de regard sur cette assiette fiscale à départager ou sur ces installations à vérifier. Et c'est la formation des familles de notables qui voient par la fusion et par différents mariages les religieux, les militaires et les marchands se regrouper autour d'une quinzaine de familles qui constituent les principales forces au sein des villes. Ce sont les Kouatli, dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, à Damas. Ce sont les Jabri, qui sont à Alep. On retrouvera encore les Barazi à Hama. Et ainsi de suite, sur l'ensemble des grands lieux urbains. Il n'est pas jusqu'aux terres lointaines, comme Deir ez-Zor, principalement, et peut-être Raqqa, qui ne connaissent cette même dynamique, parce que lorsque vous avez posé un fortin, une dynamique tout à fait nouvelle se met en place, celle de la sédentarisation de nomades. Ils ont intérêt à être autour du fort parce que vous pouvez pratiquer l'agriculture, donc une partie des tribus se sédentarise, et la nomadisation de sédentaires, c'est-à-dire ces populations des villes, qui partent au début de façon alternative vers ces lieux lointains, et puis qui y trouvent intérêt, parce que place de commerce, au sein de ces différents forts, et vous voyez Deir ez-Zor augmenter progressivement comme une petite ville à l'orée du siècle. Vous voyez quelque part que finalement, on a une imbrication très forte entre l'entreprise d'étatisation de la Syrie et l'entreprise de développement des villes. C'est l'ordre urbain qui se diffuse et qui rayonne, et qui, à ce moment-là, par cette alliance avec les notables, construit durablement des campagnes alentour, parce que ces notables ont tout intérêt à maîtriser et donc à voir prospérer une partie du monde rural environnant. Le code foncier de 1858 n'est que le prolongement et accompagne largement la promotion de ces notables. Soudainement, l'Empire ottoman, qui souhaite toujours disposer de ressources durables, octroie la possibilité d'enregistrer des terres, avec une bonne intention au départ, c'est-à-dire donner aux paysans et aux producteurs la capacité de maîtriser ces terres. Mais en réalité, comme dans tout système administratif, ce sont ceux qui sont à même de s'entendre avec les fonctionnaires impériaux qui font enregistrer en leur nom ces vastes propriétés. Les notables deviennent non seulement des acteurs du politique dans le conseil de la ville, ils sont en communication avec le centre, directement, le télégraphe, ou bien ils peuvent se déplacer, et les voilà à la tête de vastes empires agricoles qui leur assurent une richesse, avec tout de même une différence de fond qui va constituer la trame du second temps ou de la seconde grande respiration de l'histoire syrienne, à savoir finalement un ordre urbain qui se prétend de la civilité, un ordre qui s'ouvre aux idées du monde à travers la presse et les échanges intellectuels, mais un ordre qui se construit aussi au détriment des périphéries autour, des campagnes qui dominent largement. Pour ces notables, le rêve unique, c'est l'Europe, c'est le moment levantin, c'est-à-dire la fusion possible de différentes composantes de population dans le cadre de la ville. Ce qui représente pour eux le pire ou leur inverse total, c'est l'ensemble du monde nomade qui a été progressivement repoussé et qui finalement leur fait horreur. Mais si l'on se rappelle, 1870-1880, il y aurait bien d'autres exemples en tête à citer. Nous sommes à l'époque des westerns, nous sommes à l'époque où vous mettez un fortin, vous repoussez les Indiens, à la différence en Syrie, vous ne massacrez pas les tribus, mais bien vous repoussez l'ordre tribal et le système de domination pour établir quelque chose de nouveau. En cela, la Syrie est encore une fois bien banale dans une histoire mondiale. Néanmoins, dans le cadre des villes, la diffusion des idées et la diffusion de nouvelles institutions, principalement scolaires, permet la formation de nouvelles catégories. Dès les années 1900, on voit apparaître ainsi des fonctionnaires qui sont à même de remplir les tâches parce qu'ils ont acquis un savoir technique dans ces universités, qu'elles soient des bureaux ou bien que ce soit des formations militaires. L'armée connaît, au tournant du siècle, une situation inédite au niveau de l'Empire. D'un côté, des jeunes disposent des savoirs, de l'autre, la direction est assurée par des officiers traditionnels vieillissants, c'est-à-dire de plus de 70 ans dans une société relativement jeune, et on voit une contestation apparaître entre les deux. En outre, l'Empire ottoman reste tout de même soumis à différentes pressions extérieures, et pour ces officiers, le rêve qui se forme à ce moment-là est de restaurer un ordre constitutionnel qui permettrait à tout un chacun d'avoir sa place, parce que si l'on délègue un représentant à chacun, alors plus personne ne pourra contester l'ordre impérial pour tous. C'est la révolution de 1908 qui lance un grand mouvement au niveau de l'Empire ottoman, et plus particulièrement au niveau de la Syrie. Dans les jours qui suivent, à Damas, on verra des lampions célébrant la restauration de la liberté, la fin du despotisme de cet Abdulhamid II qui s'était fait tout de même connaître par sa police sanctionnant les intellectuels, et les intellectuels publient à ce moment-là un nouvel espoir. À l'Attaquié aussi, on célèbre la victoire. Dans les milieux chrétiens d'Alep, on se pose la question de savoir si ce n'est pas le prélude à de nouveaux massacres. À des résorts, de façon très lointaine, on n'a pas le temps de s'en occuper. Il y a encore des tribus à repousser et un nouveau chef local apparaît depuis 1906 qui menace les faubourgs et donc on ne s'occupe pas de révolution. Ces quelques réactions vous traduisent la manière dont un nouvel espace public va se former à partir de là, dans lequel les populations des villes vont prendre une part active et dans une large mesure, comment on va passer d'un monde d'élite discutant de politique à un monde urbain discutant de politique, parce que, après une révolution, ce sont des salons, ce sont des manifestations, ce sont tous ces désordres bien connus de tout épisode révolutionnaire qui font que tout un chacun tente à s'exprimer. Bien vite, des élections confirment le fait que chacun, au moins à 2 degrés par le système électoral, pourra avoir voix au chapitre. Des délégués partent dès 1908 vers la capitale. Ils ne se regroupent pas en fonction de leur identité arabe, mais constatent par l'évolution interne des dynamiques que les représentants qui assument le pouvoir, principalement le Comité Union et Progrès, développent une identité turque dans laquelle ils vont se retrouver en adversité. Ils ne peuvent pas s'identifier à cela. En plus, ils découvrent rapidement que le sultan calife a été déchu et démis de ses différents droits et fonctions, et donc, pour une autre partie des composantes politiques syriennes, on va se poser la question de l'avenir musulman de l'Empire dans la mesure où le sultan n'est plus là. Si le sultan n'est plus là, est-ce que l'on est garanti de vivre encore en terre d'islam ? Est-on garanti de la sacralité du pouvoir ? Et ainsi, un ensemble de formations politiques et un ensemble de discours émergent, celui qu'on qualifiera plus tard d'islamiste, d'autres encore d'arabiste, tout simplement en réaction et en discussion avec un ensemble de mouvements extérieurs. Sur le moment tout de même, l'ordre du comité Union et Progrès est celui qui naît de la Révolution et le parachèvement largement du processus de réforme que l'on a vu auparavant. Et c'est bien les Druzes qui sont arrivés à cet endroit-là, partie du Liban, qui vont expérimenter en 2 occasions ce que signifie ce nouvel ordre étatique, c'est-à-dire celui dans lequel nul n'a le droit de s'exprimer ou de contester la primauté. En 1896, un premier soulèvement fait que quelques milliers de troupes leur sont envoyées. Un accord local permet d'intégrer un atrache qui devient gouverneur local. 1910, de nouveau, se pose la crise autour du prélèvement de l'impôt et de la conscription. Les populations druzes et leurs représentants, que sont la famille atrache, contestent l'ordre nouveau en établissant les libertés anciennes, si vous voulez, dont ils pouvaient se prévaloir. Un soulèvement massif s'organise contre lequel Ahmed Pacha, gouverneur de Damas, délègue plusieurs dizaines de milliers d'hommes. C'est la première confrontation armée extrêmement violente qui constitue tout à la fois un trauma dans le tissu local, parce que là, vous avez pour la première fois un monde rural fraîchement sédentarisé, qui connaît une incursion armée violente pour se mettre ou intégrer un espace politique uniforme. Mais l'incursion armée ne marche pas, parce que comme toute guérilla, au bout d'un moment, il faut négocier. Et finalement, le gouverneur est obligé d'utiliser de ruses. Il convoque les différents représentants de la rébellion de ruses, qu'il fait immédiatement mettre à mort une fois qu'ils ont accepté l'invitation. Deuxième legs durable de cette rébellion, c'est la création de ce que j'appelle la question de ruse, à savoir comment un groupe que l'on peut identifier par une confession se construit autour d'un combat commun et d'un traumatisme commun, né du fait que l'on ne peut pas croire le centre politique parce que vous êtes toujours sujet à une trahison. Mais bien vite, pour les Druzes, dès 1913-1914, une menace beaucoup plus grande advient, celle de la guerre mondiale. Et devant la guerre mondiale et la prise de parti de l'Empire ottoman pour les forces de l'Alliance, ils sont prêts à se battre contre l'ennemi potentiellement non musulman, mais surtout contre l'ennemi impérialiste qui a montré par des dynamiques coloniales sa capacité à prendre des territoires, on est prêt à s'unir. La conscription de 1914 se passe bien. Elle déraille, je dirais, sous certaines formes, lorsque le chemin de fer n'est pas prêt ou lorsque certains dispositifs techniques ne sont pas tout à fait en place. Néanmoins, elle va constituer un point charnière qui va faire basculer l'ensemble des populations de la ville de la loyauté ottomane vers une autre loyauté née d'ailleurs, Principalement, cette mutation procède par le fait que deux traumatismes vont bouleverser cette région. Le premier traumatisme tient au fait que l'échec de l'expédition de Suez fait chercher les responsabilités. Devant l'absence de responsabilité, le chef, le dirigeant de la Syrie en guerre, Jamal Pacha, condamne à mort en 1916 un certain nombre des représentants des grandes familles. Et donc les grandes familles qui ont toujours servi l'Empire ottoman se retrouvent sur des potences et on voit leurs fils s'engager immédiatement ou basculer définitivement dans l'opposition nationaliste arabe, telle qu'ils s'appelleront après la guerre. L'autre traumatisme advient de façon extérieure. C'est en Anatolie où un plan génocidaire est entrepris par les autorités qui conduit les populations arméniennes dans un grand mouvement humain vers Deir ez-Zor principalement ou Damas, selon deux lignes de marche. Je ne reviendrai pas sur ces incidents. Le seul trait syrien qu'il faut se remémorer, c'est le massacre de Ra'is al-Ain sur la frontière. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est que cette migration va permettre la réalisation ou l'accomplissement de la grande entreprise de la fin de l'Empire ottoman, à savoir la construction du chemin de fer, parce que dès 1916, les Arméniens qui arrivent sur des bourgades encore inconnues à l'époque, comme Kobané, Jarablus, Tel Abiad, vont être mis au travail, non pas forcés, mais mis au travail tout de même, par Jamal Pacha, qui ne participe pas de l'entreprise génocidaire, mais souhaite tout de même disposer de main-d'œuvre pour construire ce chemin de fer. Et ainsi, soudainement, une ligne imaginaire, une ligne de papier apparaît, si vous regardez bien, entre un monde turc et un monde syrien. Les sorties de guerre ne donnent pas gain de cause à ce qui était attendu. La révolte arabe, qui est connue, à savoir conduite par Faisal, qui remonte progressivement de la péninsule et grâce aux armées britanniques, parvient dans Damas. Ce Faisal propose un nouvel ordre constitutionnel qui serait une sorte de synthèse permettant aux notabilités de retrouver leur plein pouvoir à travers ce gouvernement arabe dont vous avez la représentation mythique ici. Mais bien vite, l'ordre géopolitique qui se reforme au lendemain de la Première Guerre mondiale ne laisse pas place à cela. Au contraire, c'est une occupation de type colonial qui est entreprise par les Français, mais qui vont bien vite découvrir qu'ils ne pourront maîtriser ce territoire. Tout de même, les Français entreprennent un ensemble d'opérations qui vont donner à la Syrie sa consistance géographique. Ils décident, par exemple, que cette ligne de chemin de fer précédemment présentée constituera une frontière. Il n'y a pas de ça que c'est de picot en cette affaire, il y a bien une réalité de terrain et une très lente mutation, parce que sans les peuplements des Tanzimat, sans les entreprises techniques de chemin de fer et sans tout ceci, vous n'auriez pas cette ligne imaginaire qui devient évidente pour construire une frontière. L'entreprise française, au contraire, fait face, quand il s'agit de dominer l'intérieur, à un ensemble d'insurrections dont une des représentations mythiques advient à travers la figure des Atrash. Une fois encore, les Druzes se soulèvent, la question syrienne se réveille, et dès 1925 jusqu'en 1928, les Français sont obligés de constater qu'ils ne pourront construire un ordre politique durable que s'ils parviennent à trouver des acteurs locaux qui acceptent de discuter au minimum avec eux, ou au moins d'intégrer leurs institutions. L'ordre mandataire achoppe là-dessus, dans la mesure où s'il fournit l'ensemble des outils administratifs, il ne parvient pas à enraciner durablement sa présence coloniale. Ce sont les notables qui vont se révéler une fois de plus les interlocuteurs privilégiés de la puissance externe. Soudainement, ces familles urbaines dont on suit la trajectoire depuis 1850 sont au premier plan grâce aux puissances mandataires. Elles acceptent de discuter, parlant toujours d'indépendance pour une partie d'entre elles, mais elles sont conscientes que, devant le choc armé qui a échoué en 1928, il faut trouver une solution politique. Et cette solution politique passe par un traité, par une dévolution progressive des pouvoirs, dévolution des pouvoirs qui n'a rien de démocratique, mais qui doit leur revenir, parce que, représentants des villes, représentants de l'urbanité, ils sont les seuls à même de construire la ville. Certes, ils se sont entendus avec Sultan Atrash, qui a conduit la révolte de 1925. Mais sont-ils prêts à lui faire une place? C'est encore une grande question. Les années 1930, tout de même, voient dans le monde des villes quelques évolutions. On ne se bat plus dans les campagnes contre l'ordre mandataire qui décidément se refuse à mourir. On se bat dans les villes, on organise des grèves. Pour la première fois, en 1936, vous voyez les souks de Homs, les souks de Damas et autres se fermer et contester l'ordre. Soudainement, un mouvement civil se forme qui est capable de démettre tout pouvoir jugé dictateur à partir d'une mobilisation des différentes composantes de la ville. Il faut dire que les élites s'appuient sur les hommes de main, les Kobadai, pour mobiliser les troupes dans les villes. Il faut dire encore que les nouveaux courants politiques, que ce soit communistes, mais surtout nationalistes ou islamistes, les nationalistes comme les syrianistes, appellent à repousser l'ordre colonial et mobilisent une partie des jeunesses éclairées qui sont formées dans les écoles, nourries par le mandat, de telle manière à pouvoir justement avoir le personnel nécessaire pour entretenir ce mandat. Donc ce sont les produits du mandat qui le contestent. Et ce mouvement parvient à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, à forcer la puissance mandataire à reconnaître que soit elle doit occuper militairement le pays, soit elle doit trouver un accord durable, et précipiter dans les événements de 1943 à 1945 par une insurrection encore une fois massive, elle est poussée, ou la France est poussée, à sortir de Syrie durablement. Choukri al-Kouatli, descendant de cette famille Kouatli que nous avons vue depuis le début de cette présentation, peut donc habiller à la façon des notables, costume européen, tarbouche locale, proclamer l'indépendance depuis le balcon, dans un arabe classique, faiblement compris encore par la plupart des populations, et immédiatement rappeler ce que pourra être l'indépendance. L'indépendance, c'est la pleine souveraineté de certains, à savoir des villes syriennes sur un ensemble d'un territoire. C'est un nouvel ordre économique, donc on va s'attacher à créer une monnaie nationale, on va s'attacher à reconstruire des liens diplomatiques, à construire une identité nationale, mais qui peut être arabe ou musulmane ou syrianiste. Et c'est encore, à travers Choukri al-Kouatli, une certaine affirmation de ce mouvement civil des villes qui peine à faire place à l'ensemble des composantes de la nation. Le principal adversaire de Choukri al-Kouatli à l'époque, Sultan Atrash, refuse de se rendre aux célébrations. Pourquoi ? Il souhaitait avoir plus d'autonomie pour sa région, et donc ne pas reconnaître la primauté de la nation syrienne telle que l'entendait Choukri al-Kouatli, et pour cela, il est mis de côté. Les élections de 1947 qui suivent l'indépendance voient même Kouatli et son administration trouver dans des opposants locaux à Atrash des personnes qui sont susceptibles de représenter les Druzes et utilisent tous les moyens dont dispose l'administration pour promouvoir ses opposants. Et ainsi, le Jebel el-Druz entre en insurrection une nouvelle fois, cette fois-ci au lendemain des élections, parce que ces élections ne présentent pas les vertus de la démocratie telle qu'elle est entendue alors par les populations. Il faudra attendre l'ensemble de la période de l'indépendance parvenir à un nouveau pays ou un nouveau résultat qui doit faire face à deux enjeux majeurs dans lesquels le système parlementaire peine à trouver des solutions durables. D'un côté, c'est la question rurale, et de l'autre, ce sont les troubles géopolitiques, que ce soit de la guerre froide ou du conflit israélo-arabe. Le second étant plus connu en général, je reviendrai brièvement sur le premier, c'est campagnes qui ont prospéré, surtout à partir des années 30, voient un surplus démographique né tout simplement de l'amélioration des conditions sanitaires, entraînant d'une part un mouvement d'exode rural, donc les pauvres de la campagne partant vers les villes, et d'autre part un mouvement de sélection de leurs élites qui intègrent les nouvelles institutions de la ville et prennent conscience dans la ville de ce que veut dire le pouvoir de l'État. Ce sont des jeunes officiers qui découvrent tout à la fois qu'est-ce que veut dire être paysan, c'est-à-dire un demi-homme pour les urbains, mais aussi qu'est-ce que veut dire l'État, cette grande puissance capable de moderniser ses villes, avec le début de l'électrification systématique des centres-villes, la mise en place de jardins, mais aussi de toute cette verdure. Ce sont ces urbains qui croient trouver une première solution dans le rêve pan-arabe, qui s'illustre à partir de 1958, dans l'Union. Ici, vous voyez Choukri al-Kouatli et Nasser, célébrés dans la tournée générale d'opinion que mène Nasser en Syrie en 1958, avec un déplacement soudain et brutal qui donne une troisième respiration, et il me reste 10 minutes 5. Donc une troisième respiration qui sera beaucoup plus rapide. Cette troisième respiration, qui débute autour de l'Union et qui prend véritablement forme à partir de 1963, tient à une modification du jeu politique. La première chose, c'est que pour ces nouveaux entrants des campagnes dans les villes, qui ont deux figures très importantes, et il faut toujours conserver cette distinction. D'un côté, une élite, les officiers, et d'un autre, une masse, ceux qui occupent des banlieues, installés dans des préfabriqués, dans des maisons de chaume et autres, autour des villes. Pour ces ruraux, l'ordre urbain devient intolérable. Et les années 60 peuvent être qualifiées d'années de germination. C'est la germination d'une nouvelle Syrie dans laquelle deux ordres entrent en conflit de façon extrêmement violente. Le premier ordre, qui est bien connu pour tous ceux qui assistent au cours de M. Pierre Rosanvallon, c'est l'ordre de la loi, c'est l'ordre constitutionnel, c'est l'ordre qui fait dire que la loi uniforme les conditions et donne accès pour tous à une pleine égalité et une pleine dignité. Mais cet ordre aussi, c'est un ordre capitaliste, c'est un ordre du secteur marchand s'étendant sur les campagnes, c'est un ordre violent qui s'exprime aussi dans une certaine idée culturelle de la civilité, faisant des paysans, et encore pire, des tribaux, des demi-hommes, voire pire. Cela se traduira bien plus tardivement lorsque vous entendrez les populations à l'épine en 2012 vous dire « Mon Dieu, on est envahi par des étrangers », traduisez, ce sont les paysans des campagnes environnantes faisant la révolution qui viennent juste de rentrer dans la ville. Cet ordre-là voit un autre ordre le contester. C'est l'ordre de la justice et de l'égalité qui énonce au nom de la nation le besoin de dignité, ce que Nasser illustre par son slogan « Égyptien, lève la tête ». C'est l'ordre qui veut redistribuer les richesses, c'est l'ordre qui veut que le corps national trouve une place pleine et entière sans forcément avoir une position institutionnelle ou une position législative. Et c'est un ordre qui vit, certes, dans la rancœur, dirait Édouard Sabe, mais surtout dans une envie et un enthousiasme de remettre en cause les choses. Nous sommes dans les années 60, les barbes poussent avec les cheveux, les habits se changent, qui conteste le premier ordre. Et il va utiliser la même violence, parce qu'il l'a vécu dans l'intime, dans la famille, pour détruire le premier. Cette violence, c'est d'abord des coups d'État réguliers qui, à chaque fois, démettent une faction sur l'autre. Et dès 1963, on ne réunit plus de Parlement, on fait des bulletins, on repousse la Constitution, parce que, de toute façon, l'ordre du provisoire prévaut. C'est une violence par la prise des richesses. On nationalise immédiatement. Mais c'est aussi une violence qui permet à certains de retrouver une position qui leur permet de disposer de pouvoirs et de prérogatives. On recrute massivement dans les services de renseignement pour constituer des gardes prétoriennes. Et ainsi, des jeunes ruraux fraîchement débarqués de villages trouvent au minimum un emploi en ville et donc peuvent survivre dans des villes qui ne leur fournissent pas une place pleine et entière. Ce nouveau système va se sédimenter à travers trois moments forts qui apparaissent dès 1966 dans ces figures. L'officier, Hafez el-Assad en l'occurrence, à côté de lui, Nour ed-Din, deviennent les nouveaux garants de l'ordre en Syrie. On remarquera que tout le développement de cet État qui s'était lentement sédimenté est bouleversé parce que soudainement, celui qui le domine est quelqu'un provenant de la ruralité qui va utiliser l'État pour construire son propre régime, construire son propre système sur l'ensemble d'une société. Et c'est une sorte de contrat social qui lui fait donner certaines choses aux populations rurales contre le fait que tout le mouvement civil des villes va être progressivement écrasé. Dans la première occurrence, c'est 1964, lorsque Hama, vous avez des mobilisations qui voient des frères musulmans, mais aussi des représentants de la faction haouraniste, ce représentant socialiste qui s'allie avec les frères musulmans au nom de la contestation de l'ordre militaire et dictatorial. Ils veulent le rétablissement des libertés constitutionnelles. Un accord se fait, à l'époque, entre le gouverneur, un certain Khaddam, promis un bel avenir de ministre des Affaires étrangères, Mustafa Tlass, qui assume la direction des opérations, Hafez al-Assad, qui après dira « je ne voulais pas autant de violence, mais bon, finalement, je l'ai toléré », et Rifat el-Assad qui fait le travail pour reprendre en main la ville, et c'est le premier bombardement d'une ville syrienne par ses propres autorités, la destruction de la mosquée sultane, dans laquelle, ou dans ses décombres, émerge une figure, Marwan Hadid, qui propose comme unique réponse à venir à cet ordre étatique la contestation par les armes. C'est la naissance de l'avant-garde armée qui deviendra le fer de lance de la contestation des années 70. Cet ordre peine à s'installer à partir de 1970 lorsque Hafez el-Assad prend le pouvoir parce qu'il faut d'abord s'assurer d'une stabilité. La stabilité, dans le langage syrien, cela ne signifie pas une stabilité du pays, cela signifie la permanence d'un pouvoir d'un seul, Assad, et voire de ses successeurs. Et nous avons trois grands moments de Assad, celui qui s'étend de 1870 jusqu'en 1985, puis de 1985 à 2000, et de 2000 jusqu'à 2012, où l'on voit un même système se former et se reformer selon les circonstances. Le premier, il s'agit de la contestation contre le mouvement civil qui culmine dans les années 1976-1982, dans lequel les villes sont progressivement domestiquées et l'ensemble des contestations, qu'elles soient islamistes ou autres, sont mises à mort. Et Bitar, présent à Paris à ce moment-là, l'expérimente lorsqu'il est assassiné par des auteurs inconnus jusque-là. On peut soupçonner le régime syrien, dans la mesure où Bitar construisait à ce moment-là un discours appelant au rétablissement des libertés constitutionnelles. Mais le problème de ce premier système, c'est qu'il repose largement sur deux figures, Rifat et Hafez el-Assad, et lorsque les deux se contestent, parce que le premier fatigue et finit par avoir des problèmes de santé, et que le second tente de prendre la ville avec ses propres troupes, on s'aperçoit que le système Assad peut menacer l'équilibre durable. C'est une seconde respiration qui commence à partir de 1985, lorsque Rifat est défait, et pour cela, un ensemble de barons militaires dominent la Syrie, et pour qui ces barons militaires qui mettent en coupe réglée à la fois l'économie et à la fois le politique. Ali Douba et autres font de la Syrie ce pays dans lequel le peuple regarde ce que l'on souhaite lui montrer, largement conduit par un ensemble de polices politiques qui sont en charge de détruire la moindre des velléités de contestation, la moindre des velléités d'expression politique, ce qui fait dire à l'époque, peu de temps avant de mourir, à Michel Seurat, on peut se demander si dans le désert de la tyrannie, il reste encore un espace du politique. Il faut bien voir que ce n'est pas un ordre stable et durable, dans la mesure où Ali Douba contre Ali Haidar, par exemple, s'affrontent pour obtenir des positions et de nouveaux marchés pour leurs propres personnes, et donc entraînent des petites guerres civiles entre leurs hommes, ce qui fait dire à plus d'un, si un tel, qui est représentant des Mukhabarat Jawiyeh, c'est-à-dire service de renseignement de l'armée de l'air, boite, c'est peut-être qu'il a pris une balle dans la jambe par un de ses concurrents au sein de la ville. On voit tout d'un coup un pays se rigidifier dans un gouvernement ou dans un système dans lequel, au nom de la domination d'un clan et de ses alliés proches, l'ensemble du pays n'a plus le droit de citer. Mais à partir de 1985, dans cette deuxième grande respiration, se pose très rapidement la question pour Hafez el-Assad de savoir ce qui adviendra après. Dès 1988, il promeut Bassal al-Assad. Et soudainement, une nouvelle figure apparaît, celle de la famille et du clan. Hafez, au premier rang, promeut son fils aîné. Dans l'immédiat, les premiers échos sont ce jeune qui n'a jamais combattu, qui est propulsé à la tête de l'État, et peut-être quelqu'un qui ne fera pas long feu de la part des grands caciques du pouvoir. Malheureusement, pour cette solution de succession dans la volonté du père, il vient à mourir d'un accident de voiture parce qu'il est conduit à des excès de vitesse en 1994. Soudainement, la Syrie se fige autour de versets du Coran qui sont écoutés en permanence. Et alors même que la réaction populaire est plutôt favorable au régime à ce moment-là, dans la mesure où elle peine à voir son fils, le deuil imposé des 40 jours mobilise majoritairement la population contre ce deuil, parce que si certains étaient prêts à faire un geste de douleur par rapport au père de la nation, le fait d'imposer la fermeture des espaces marchands pendant plus de 40 jours soulève la contestation. mais dans l'ordre d'Assad, nul n'a droit de contester, nul n'a droit de faire autrement que comme s'il était d'accord. Immédiatement, une solution apparaît. Deux enfants sont promus sur le devant. Bachar el-Assad assiste aux obsèques avec son père. Et, si l'on en croit les documents diplomatiques français, immédiatement, Maher el-Assad est propulsé dans l'armée parce que, pour construire le nouveau pouvoir, il faudra s'assurer des baronnies. La troisième et grande respiration de la Syrie, dont elle n'est pas encore sortie, c'est cette Syrie à la croisée des chemins, qui voit une certaine trinité, le père, le fils et l'autre fils, assurer la destinée durable de cette Syrie. Bachar arrive et on aboutit à un paradoxe. C'est celui qui réanime l'esprit des villes. Il va au restaurant à Alep, il célèbre l'activité marchande de Homs, il propose une nouvelle modernisation sans réaliser que de nouveaux ruraux sont entrés en ville et qu'ils ne leur font plus place. Et l'on retrouve une sorte de dynamique dans laquelle le nouveau pouvoir s'est allié à des notabilités qui gouvernent et qui sédimentent leur pouvoir en interdisant aux autres de dominer, qui s'appuient sur une violence d'État extrêmement forte à l'adresse que ce soit des populations, mais aussi de grandes composantes, et qui ne laissent pas de place. Dès 2000, d'ailleurs, les Druzes en font encore une fois l'expérience, lorsqu'ils ont des chars déployés dans leurs rues, mais que la population syrienne ne se solidarise pas avec ce mouvement de contestation parce qu'ils ne comprennent pas la portée générale. En 2011, cette même population syrienne de Damas se demandera où sont les Druzes. C'est dans cette nouvelle expérience, dans ce nouveau laboratoire, que se recrée un mouvement civil, fait de sociétés civiles, d'Internet et d'accès à l'étranger, que se forme une contestation inédite dès 2011. Lorsque le peuple syrien se lance dans les rues des villages et des villes pour demander la dignité, non plus de la nation, mais la dignité personnelle, et réclamer justice, il va découvrir ce qu'un État est en mesure de faire à sa population, c'est-à-dire pulvériser au besoin l'intégralité des composantes du pays, détruire les terroirs ruraux, écraser les activités économiques pour assurer sa propre survie. L'expérience syrienne, avec 10 minutes de retard, se conclut donc en 2012, mais ce n'est pas une fin, ni 2018, sur cette question qui finalement est lancinante dans un ensemble des États du monde, comment faire place à tous dans un système politique sans pour cela être dans l'instabilité, comment construire dans une même urgence à la fois des réformes économiques, politiques, et aussi assurer à chacun le droit de l'expression, sans que ce droit de l'expression n'aboutisse au morcellement d'une nation et un morcellement de pays du fait d'ingérences de plus en plus présentes, de partenaires étrangers qui agissent comme tout partenaire qui se respecte en fonction de ses intérêts. C'est donc un État qui peut être intégrateur et porteur d'un plein développement de la nation, ou au contraire, un État qui écrase toutes les composantes s'opposant à lui. Et c'est bien cette grande question de l'autorité publique et de la manière de la réformer que se pose la Syrie depuis 2012, dans des violences et des affres que tout le monde connaît.
Merci Mathieu. Tu as donné un vaste éclairage absolument essentiel sur la longue durée. Évidemment, sur le 19e siècle, c'est toujours compliqué parce que comme la Syrie la Syrie d'aujourd'hui n'est pas là. Donc c'est une espèce de rétroaction, même si à partir des années 1860, il y a un vilayet Souria. Mais ce vilayet Souria ne correspond pas à la Syrie d'aujourd'hui. Ce qui rend les choses plus compliquées. Et en même temps, puisque tu admets que tu travailles dans le cadre de la grille géographique, disons, de San Remo, pour simplifier les choses, vous saurez ça dans la semaine prochaine, San Remo, tu mets un peu à l'écart la montagne, en quelque sorte, parce que... Où est le réservoir démographique? C'est là la question à l'époque ottomane. Où est le réservoir démographique? Il n'est pas dans la plaine, il n'est pas dans les villes. Les villes, en Europe comme au Proche-Orient, elles ont un solde migratoire négatif. C'est-à-dire qu'on meurt plus dans les villes que dans les campagnes. la ville ne croît en population ou ne se maintient en population parce qu'il y a des ruraux qui y entrent. C'est aussi valable pour Paris en 1780 que pour Damas ou Londres, etc. C'est une règle générale. Il faut attendre le 19e siècle pour que la ville puisse produire des habitants. Donc, où est le réservoir démographique? Il n'est pas dans ces oasis de l'intérieur, il l'est dans la montagne. Et c'est ce que montrent très bien les Druzes. Quand ils quittent le Chouf pour aller sur le Oran à partir, alors, selon les sources, entre 1780, 1820, enfin bon, c'est un flux continu. Mais les Druzes ne sont qu'une démonstration d'un mouvement plus général des réservoirs agricoles, enfin des réservoirs démographiques, qui se déverse sur tout l'intérieur des terres. Et ceci, pas simplement dans la petite Syrie de Saint-Rémy, mais sur l'ensemble de la grande Syrie naturelle, comme aurait parlé un géographe français d'avant 1914. Puisque de l'autre côté, c'est aussi les montagnards qui peuplent les littoraux. Dans la même période, la croissance des villes littorales et des populations littorales, ça vient aussi de ce réservoir montagnard, qui est aussi un réservoir transcontinental, puisque ce sont les mêmes montagnards qui partent aussi vers les Amériques à partir de 1880. Mais l'intérêt de ton travail, c'est d'insister sur le fait que jusqu'ici, on n'avait pas suffisamment insisté, qui est parce qu'on voyait le flux vers les littoraux. On voyait les flux transcontinentaux, mais on ne voyait pas la reconquête de l'intérieur. Et le Far West, oui, les consuls de France le disent. Ils font des comparaisons directes entre la stratégie ottomane de reconquête de l'intérieur et ce qui se passe en Amérique du Nord dans la même période. Raqqa, c'est Fort Apache, hein. Il faut être clair, mais c'est aussi Beersheba, Amman, Salt, c'est un mouvement général dans l'ensemble de la région. Et donc je disais la semaine dernière, tu n'étais pas là, qu'il nous manquait une histoire écologique, il nous manque aussi une histoire démographique, parce que ces populations, par exemple, qui s'installent sur l'Euphrate, surtout à la période mandataire, vont ensuite reprendre d'autres mouvements, avec cette fois l'exode rural vers les villes, à la période républicaine. Donc ça tisse des solidarités, des souvenirs, des jeux absolument complexes. Et puis, bon, ça rappelle aussi cette réalité que toutes ces structures que tu décris connaissent un multiplicateur démographique absolument immense. Tu mets combien d'habitants dans ta Syrie vers 1800?
2 millions, 2,5 millions.
Voilà, et aujourd'hui?
En 2012, 21 millions.
Voilà, donc on a un multiplicateur par 10.
Qui n'est pas continu, c'est-à-dire que si on pense à la Syrie, par exemple, de Hafez el-Assad, il arrive au pouvoir, c'est 6 millions d'habitants.
Mais
6 millions à sa mort.
Oui. Mais si ça vous donnerait, à titre comparatif, une France de 280 millions d'habitants. Donc, il faut avoir ces rapports. Je reviendrai sur un dernier point, enfin, deux points, aller aux deux extrémités de ton exposé. Le premier... qu'est-ce que c'est qu'un empire? On en a toujours des visions très positives ou négatives, etc. Mais disons qu'un empire, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est une force qui négocie en permanence, parce qu'il y a des coûts d'administration. Et les coûts d'administration, c'est trop cher. Vous ne pouvez pas envoyer des dizaines de milliers d'hommes, chasser les Bédouins, rétablir l'ordre, et ainsi de suite. Donc l'Empire ottoman, comme tous les empires, y compris les empires coloniaux français et britanniques, c'est un empire qui négocie en permanence tout en choisissant ses interlocuteurs et éventuellement en opposant l'un à l'autre des visés pour régner. Mais une fois qu'on a compris que sur la longue durée, le système ottoman est un système de négociation avec ce que donnent les Ottomans aux autres, c'est-à-dire la légitimité. À partir du moment où le pouvoir ottoman définit un interlocuteur, il devient légitime, et donc il peut avoir une ferme fiscale. Alors, ça permet d'évacuer, par exemple, en dehors direct, toute cette question sempiternelle sur l'émirat de la montagne libanaise. Était-ce ou n'était-ce pas quelque chose d'indépendant? Était-ce simplement de simples fonctionnaires fiscaux, comme disait Kamal Salibi, pour emmerder les autres? Non. C'est une structure de négociation permanente entre les autorités ottomanes et les fermiers fiscaux de la montagne, avec des échanges de services entre les uns et les autres. Donc il faut bien considérer sur la durée que c'est un système de négociation. L'autre côté, cette histoire démographique, elle se projette. Il y a maintenant quelque chose qui, évidemment, ne peut être que sur des points d'interrogation, mais des millions de réfugiés syriens à l'extérieur, ça ne peut que bouleverser la vision de l'identité syrienne, du rapport des populations syriennes, etc. Déjà maintenant, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il va exister un puissant extérieur par rapport à la Syrie, quel que soit le régime dans lequel ce pays se trouvera. Des commentaires, sinon on laisse la parole.
Juste deux commentaires sur les pôles démographiques. Naturellement, ce sont les montagnes, mais c'est aussi le monde des tribus.
Oui.
On a vraiment un mouvement de migration qui s'organise de la péninsule et qui fait qu'on a des groupes inédits qui permettent aussi, au moment où on va avoir des entreprises de sédentarisation des populations, par exemple, si je prends une ligne, ça sera l'objet du prochain livre, autour de Alep jusqu'à l'Euphrate, au nord, vous avez cette ligne imaginaire qui vont définir la frontière syro-turque dessus. Si, des enquêtes que j'ai pu conduire dernièrement montrent comment vous avez trois catégories. Ceux qui arrivent avec Ibrahim Pacha, et dont la famille a conservé une mémoire. Ceux qui vous disent, non, nous, on est des tribaux venant de la péninsule, quelque part dans les siècles, c'est-à-dire 18e siècle à peu près, et ils ont conservé à peu près les étapes familiales. Et la troisième catégorie, ce sont les ingénieurs qui viennent avec le chemin de fer. Et c'est ce monde-là qui se forme, que l'on peut voir apparaître. Mais malheureusement, sur ce pôle démographique, il faudrait faire des enquêtes prononcées auprès de toutes les populations, parce qu'on a très peu de sources et très peu de connaissances sur le bouleversement de la péninsule arabique, en dehors de ces expressions politico-religieuses, du XVIIIe siècle.
Oui, ça, c'est essentiel là, pour l'histoire du Proche-Orient, c'est la remontée vers le nord des tribus bédouines à partir de l'horizon 1700, qui donne naissance, par exemple, à tous ceux que nous connaissons sur le Golfe, les Émirats, comme Koweït et autres.
Et à l'Irak.
Et l'Irak sont construits à ce moment-là par ce grand mouvement migratoire bédouin et l'arrivée, par exemple, dans la Badiyat al-Sham des Chamars qui viennent du Najd. Donc ça, c'est évident qu'on enregistre la présence de ces groupes tribaux et on peut à peu près dater leur déplacement, mais on n'en sait pas plus. Pourquoi ils migrent ? C'est toujours les mêmes questions. Il y a toujours la version « c'est parce qu'il a fait mauvais ». Où il y a une sécheresse, etc. Ou l'autre version, c'est parce qu'ils font trop d'enfants. Mais ça, c'est une vieille histoire depuis la plus haute antiquité, de ce point de vue.